RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Le maire de Vichy en a marre que sa ville soit associée au régime du maréchal Pétain. Il s'insurge de l'emploi du terme régime de Vichy dans le sujet du brevet d'histoire-géographie cette année. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Jean-Loup ?
Ah, on s'en fout pas.
On s'en fout pas.
Non, on s'en fout pas du tout.
Laura.
On s'en fout pas.
Frédéric Aguilera, le maire LR de la ville, a même écrit au ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Selon lui, le régime de Vichy avait un nom, celui de l'État français, tout simplement. Réponse du ministre de Édouard Geffray. Donc, l'expression régime de Vichy n'a pas vocation à être modifiée dans les programmes scolaires. Jean-Loup.
Le ministre a tout à fait raison, parce que c'est une expression extrêmement courante, consacrée. Cette expression consacrée est utilisée par les historiens. Et ce n'est absolument pas une façon d'attaquer ou de stigmatiser la ville de Vichy. Mais moi, ça me rappelle une petite histoire. Ça me rappelle quand Manuel Valls, il y a une grosse dizaine d'années, avait comparé Bachar el-Assad à un boucher. Et il y avait une plainte du syndicat des bouchers qui disait « Oui, c'est scandaleux !» et tout. Et vraiment, c'est le même type de réaction. À notre époque, on ne supporte plus rien. C'est
pour Vichy,
cette ville
n'arrive pas à enlever cette étiquette.
Ça n'empêchera pas les gens d'aller y prendre. Il y a vraiment une sorte de susceptibilité. Voilà, l'expression de régime de Vichy est consacrée. Et donc, vraiment, on ne supporte plus rien. On ne supporte plus aucune expression. Il y a une émotivité, une surréaction. Vraiment, cette société. Voilà, c'est le régime de Vichy. Tu fais avec Rouya, quoi.
Laura.
L'histoire, elle est faite de d'ombre et de lumière. Il y a des zones d'ombre dans notre histoire, il n'est pas question de les nier. Et je pense que toute personne est capable de comprendre que Vichy est une belle ville fleurie, ville et village fleurie avec quatre étoiles. Et que pour autant, ça a l'histoire que ça. Et je vois pas en quoi... Enfin, en fait, je vois pas pourquoi aujourd'hui... En fait, ça montre à quel point on est devenu un peu bête, excusez-moi.
Oui.
Mais aujourd'hui, on peut plus dire un mot sans en comprendre la complexité. Vichy, Vichy. Bon, personne ne se dit que s'il va à Vichy, il va tomber sur des nazis à chaque coin de rue.
Oui, qui a croisé le maréchal au coin de la rue.
Il va croiser le maréchal au coin de la rue, personne ne se dit ça.
Bruno.
C'est là aussi les pastilles.
Et oui, les pastilles.
Les cures thermales.
Donc tu te détends et t'arrêtes de casser les yeux.
Non, mais
quoi.
Ça s'appelle l'histoire, en fait. On peut pas abandonner l'histoire.
Bruno.
Il y a un tas de villes en France qui sont marquées du sceau de l'histoire et qui est pas toujours très reluisante. Hein, je veux te dire, Drancy, je pense que les pauvres, ils voudraient peut-être oublier un petit peu ce qui s'est passé chez eux.
Oradour,
après, je te parle même pas de toutes les villes en Allemagne ou en Pologne qui avaient des camps et tout. Donc à un moment donné, malheureusement, c'est comme
Birkenau.
Ça. Moi, je trouve que c'est quand même bien de se rappeler aussi ce qui s'est passé et qu'en fait, quand tu dis Vichy, les gens tout de suite, ça les percute un peu. Parce qu'un jour, on oubliera ce qui s'est passé dans les années 40 et ça sera vite fini.
On dit même la France de Vichy.
Bah, on a bientôt oublié d'ailleurs.
Ça serait bien que la classe politique française dans son ensemble soit un peu moins soumise à l'Allemagne de manière à l'heure actuelle.
Je crois que
je dis rien, quoi.
Alors ça, c'est un autre sujet.
Bon, les GG, le bac 2026, cette fois, le tour de vis sur l'orthographe demandé par Édouard Geffray, toujours, a déjà du plomb dans l'aile. Selon le Figaro, les inspecteurs n'ont pas vraiment répercuté ces consignes au correcteur. D'ailleurs, Jean-Loup, tu es correcteur. Est-ce qu'on s'en fout ou pas ?
On s'en fout pas.
Bruno ?
Non, on s'en fout pas.
Flora ?
On s'en fout pas.
Jean-Loup ?
Eh ben, moi,
est-ce que tu as suivi les consignes du ministre ?
Non, pour une raison très simple. Pour une raison très simple, c'est que on n'a reçu aucune. C'est-à-dire, il y a les consignes du ministre que j'avais soutenues et défendues dans cette émission il y a quelques semaines quand elles avaient été données. Simplement, entre le ministre qui a donné cette consigne avec laquelle je suis tout à fait d'accord et les correcteurs, il n'y a eu aucune indication concrète sur ce qu'il fallait faire. Donc je pense que c'était de bonnes consignes et que maintenant la prochaine étape, pour l'an prochain, c'est d'assurer la transmission.
Ce qu'attestent des extraits de réunions académiques que le journal Le Figaro s'est procuré, mention dans la mesure où une maîtrise imparfaite de l'orthographe et de la syntaxe ne gêne pas la compréhension du propos du candidat, les copies ne seront pas pénalisées. Ce sont les propos tenus par un inspecteur lors d'une réunion académique chargée justement de fixer les consignes.
En contradiction avec les propos du ministre.
De correction exactement pour le bac, mon cher.
Si tu étais sévère sur l'orthographe, il y a beaucoup de copies qui seraient à zéro rapidement.
Si j'étais sévère sur l'orthographe, à peu près, ce n'est pas une plaisanterie ni une exagération, à peu près 95% des copies présente des difficultés
de terminal,
présente des difficultés lourdes d'orthographe et de grammaire.
Ce qui est un problème, c'est qu'on a des ministres qui n'ont aucune autorité sur leur administration. Donc on a Édouard Geffray qui nous dit j'ai donné des consignes, elles sont pas appliquées. On a Gérald Darmanin qui dit j'ai donné des consignes, elles ne sont pas appliquées par les magistrats. Bref, à quoi servent ces ministres ? C'est-à-dire, en fait, le pouvoir est entre les mains des fonctionnaires, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça la conclusion.
Moi, ce que je vois, c'est que le combat pour l'orthographe est perdu depuis longtemps. En fait, quand tu regardes aujourd'hui des gens qui écrivent des mails dans ton boulot et que la plupart ils font des fautes alors qu'ils ont des correcteurs d'orthographe, moi je suis inquiet de. Fait des années en fait. Moi, je suis ma génération, les derniers, peut-être les derniers à avoir fait des dictées et puis avoir autant mis d'importance dans l'orthographe. Parce qu'aujourd'hui, moi, ça fait des années que j'ai des patrons, mais même des patrons et qui sont cas dessus. Moi, je vois des fois leurs mails, il y a des fautes d'orthographe dedans, ça me rend dingue, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Donc, c'est sûr que des gamins aujourd'hui de 18 ans, ça fait longtemps que c'est fini. Hein.
En même temps, désolé, je vais dire un truc clivant, mais la question se pose parce que moi, pour moi, l'orthographe, c'est très important parce que ça aide à comprendre aussi la racine des mots, leur sens, leur complexité, leur nuance. Mais face à une école qui est désemparée face à peu près tous les sujets civilisationnels auxquels les enfants qu'on prépare auront affaire, peut-être qu'il y a aussi d'autres sujets plus importants. Et je préfère qu'on crée des êtres qui sont capables d'avoir un emploi à l'ère de l'IA, de la crise climatique. Enfin, il y a des priorités, quoi. Malheureusement, j'aimerais que l'école puisse tout faire, éduquer des citoyens, par exemple, les former à l'esprit critique. Quand on voit le peu d'esprit critique des citoyens aujourd'hui, peut-être que l'orthographe est pas la priorité.
Oui, mais pour avoir l'esprit critique.
Et ça me fait de la peine de dire ça parce que pour moi c'est très.
Est-ce qu'un mot à la douane est bon en orthographe ?
Pardon, mais pour avoir l'esprit critique, c'est bien de maîtriser ta langue.
Oui,
or,
c'est
l'orthographe,
vrai.
C'est la maîtrise de la langue. Ouais. Tu peux pas ensuite avoir cet esprit critique et développer un argumentaire si tu sais pas bien parler.
De toute façon, l'orthographe, c'est surtout le reflet que les gens lisent pas. Si tu lis pas, t'es mauvais dans
les GG, la Poste sous pression dévoile son plan stratégique pour renouer avec la croissance et cela pourrait passer par la disparition de plusieurs milliers de boîtes aux lettres jaunes. On s'en fout ou pas, Jean-Loup ?
On s'en fout pas.
Bruno ?
On s'en fout pas du tout.
Flora ?
Je m'en fous.
Mais oui, on distribue beaucoup moins de courriers. Les Français n'envoient plus que 5 lettres par an contre 65 il y a 20 ans. Alors des parlementaires suggèrent de fixer un seuil minimal de 5 lettres déposées par semaine pour maintenir une boîte jaune, sauf dans les communes évidemment pour lesquelles il n'existe pas d'alternative à une distance raisonnable. Jean-Loup.
Moi, je m'en fous pas parce que je pense que c'est d'une part le service public et d'autre part, c'est justement le type d'objet assez beau d'ailleurs esthétiquement qui contribue à l'identité de nos paysages,
si
de nos
pas,
villages.
Mais si c'est pas rentable, enfin.
Ah, bah, si personne l'utilise.
Bah non, mais c'est pas.
Donc, comme les cabines téléphoniques Arbo.
Moi, je défends la boîte jaune et surtout, oui, j'ai des souvenirs. J'ai déjà envoyé une lettre au Japon depuis une boîte jaune qui était au fin fond de la campagne et je trouvais que c'était une idée qui était assez belle. C'est-à-dire qu'une lettre que tu mettais dans une obscure boîte jaune au fin fond de la campagne allait pouvoir efficacement, une semaine après, se retrouver à l'autre bout du monde.
Donc voilà, je suis
un défenseur.
C'était pas une semaine, hein. C'était.
Si, c'est une semaine.
Ah bon ?
C'est 8 jours. Ouais,
ah
ouais.
Bon, t'as de la chance.
Bruno, c'est 8 jours.
Bruno,
8 jours.
Ça fait partie du paysage français, la boîte jaune.
C'est surtout une obligation légale qui est un peu obligée par l'Europe et aussi par le gouvernement français. Deuxièmement, la Poste est une entreprise qui est bénéficiaire à plus d'un milliard d'euros. Voilà. Moi, je suis désolé. Donc, ouais, vous allez dire que là, c'est même pas une question financière. Donc, il y a un vrai sujet. Et surtout, il ne faut jamais oublier que la Poste et les facteurs, en règle générale, mettent du lien social dans des endroits où il y a plein de personnes qui ne voient personne. Les anciens, quand il y a la canicule, par exemple, on demande aux facteurs d'aller voir les gens et de sonner aux portes, savoir si les gens répondent, s'ils sont en forme. Donc, à un moment donné, si on peut tout démonter, mais vu que l'État français abandonne tout, ça serait bien quand même qu'on garde encore quelques services publics afin de mettre un peu le lien entre les Français, puis surtout de se rappeler si les Français sont vivants ou pas.
Service public, lien social.